France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour Mazette, quelle musique ? En ce premier dimanche d'octobre, premier dimanche du mois, une thématique de développement personnel donc, et aujourd'hui une thématique dont nous avons tous eu l'expérience pour nous-mêmes ou pour d'autres, je n'arrive pas à finir. Difficulté de terminer, sublime longueurs infinies, œuvre inachevée, Schubert, bien sûr, c'est parti.
Thank you.
Nous venons d'entendre le premier mouvement du 12e quatuor de Franz Schubert, musique prenante, sombre, tourmentée, écrite à l'automne 1820 par un jeune compositeur de bientôt 24 ans. Il traverse une période sombre et tourmentée lui-même, au cœur de ces années que les musicologues appellent les années de crise, 1818 à 1823. On devrait peut-être plutôt dire les années critiques, critiques en termes artistiques, années de recherche, de spectaculaire évolution du style, de la manière de composer, un langage qui change, qui devient beaucoup plus personnel, l'élaboration de grandes formes, notamment les deux grands opéras de Franz Schubert, Fiera Bra et Alfonso e Estrella. C'est une période qui est marquée aussi par de nombreuses œuvres inachevées et abandonnées, entre autres l'oratorio Lazare ou la fête de la résurrection en 1820, et puis la célèbre symphonie inachevée, dont les deux mouvements terminés et les esquisses du troisième datent de 1823. Ce 12e quatuor est inachevé, nous allons l'entendre dans un instant, avec les 40 mesures composées du second mouvement andanté, brusquement interrompu. Après un premier mouvement magnifique, maîtrisé, tenu, saisissant, pourquoi abandonner cette œuvre? Pourquoi attendre 4 années avant de revenir vers le genre quatuor à cordes? Nul ne le sait. Après cet incroyable saut en avant, après la perfection de ce premier mouvement, si nouveau, si impressionnant, était-il trop difficile de trouver immédiatement la voix, l'inspiration pour demeurer sur ces hauteurs géniales? Le fait pour les grands artistes, musiciens, plasticiens, écrivains, etc. de ne pas arriver à finir alors que l'on est fermement engagé sur la crête qui conduit manifestement au chef-d'œuvre a fait couler beaucoup d'encre. Ainsi en est-il de l'inachèvement de la messe en ut mineur de Mozart, monument qui, malgré cet état d'inachèvement, il manque certaines parties, il y a des lacunes dans l'orchestration, n'en constitue pas moins le sommet de la musique sacrée de Mozart. Il contient notamment le sublime Incarnatus Est dont nous nous approcherons un prochain dimanche. Je n'arrive pas à finir, mais lorsque c'est la mort qui est à la manœuvre et que c'est elle qui empêche l'achèvement, c'est tout de même plus simple, pas besoin d'aller chercher d'autres explications convaincantes. Ainsi en est-il bien sûr du Requiem du même Mozart. Les dernières mesures ont été écrites par le compositeur la veille de sa mort et ce sont les 8 premières mesures du Lacrymosa, nous disent les experts. À la mort de Mozart, Constance, sa veuve, qui doit faire face à une situation matérielle on ne peut plus inquiétante, tient absolument à obtenir le paiement prévu et à livrer donc au commanditaire du Requiem une œuvre complète, aussi complète que possible, et dont, surtout, il ne soupçonnerait pas qu'elle puisse être écrite d'une main autre que celle de Mozart. Constance met donc à contribution, plus ou moins en secret, quelques jeunes musiciens familiers de Mozart, Heibler, Freischettler, Süssmayer, et elle leur demande de compléter l'œuvre en ajoutant des pièces non encore composées ou en terminant les compositions, le développement, l'orchestration des esquisses de Mozart. Je vous propose d'écouter Le Lacrymosa d'abord dans la version complétée et achevée dans les jours qui suivirent la mort de Mozart, et puis après, telle qu'on peut la lire, avant ses ajouts, sur la partition de la main de Mozart lui-même. Assez saisissant dans l'inachèvement, je trouve. Je n'arrive pas à finir parce que la mort m'y contraint définitivement. On se souvient peut-être de la question que pose Proust à la mort de Bergotte. Il était mort. Mort à jamais ? Qui peut le dire ? C'est toute la question qui se pose. Le compositeur n'est pas arrivé à finir son œuvre parce qu'il a été empêché par la mort. L'œuvre est-elle morte ? Morte à jamais ? Quatre exemples en musique, quatre sorts différents, quatre réponses très contrastées. En septembre 1686, après le succès triomphal de sa pastorale héroïque à Cis et Galatée, Lully se met à préparer une nouvelle tragédie en musique, Achille et Polyxène. Le 8 janvier de l'année suivante, pendant l'exécution de son tédéum en l'église des Feuillants, il se blesse le pied avec le bâton ferré avec lequel il bat la mesure. La douleur est insupportable, mais pire encore, quelques semaines après, la gangrène se généralise. Lully signe son testament le 10 mars et meurt le 22 mars 1687. L'ouverture et le premier acte de la tragédie sont achevés, mais pour le reste, seule la première scène de l'acte 2 a été composée. Faut-il achever le projet du grand Lully ? Réponse oui. Et c'est donc Pascal Collas, un de ses élèves, qui termine l'œuvre. Elle est représentée dès le mois de novembre de la même année, sans aucun succès. Inachevé ou terminé, l'ouvrage est mort. Et à ce jour, seuls quelques rares extraits ont été exhumés au disque. Ils ne sont pourtant pas sans beauté, particulièrement l'air d'Achille qui ouvre l'acte 2, la dernière page écrite par Lully. Tous les charmes de la haute contre à la française, soutenus par la somptueuse écriture orchestrale lulliste à 5 parties. C'est Reinhold van Mechelen qui est Achille et qui dirige aussi son ensemble à Nocte Temporis. Précisons-le, il le dirige à main nue, sans bâton ferré.
C'est vrai.
C'est pas mal.
C'est vrai. Enfin, l'élégance française.
Vraiment,
ça sent la
bon
respect pour les petits courants, si j'ose dire, sous la surface de la mer symphonique.
De toute la région. Moi, je préfère le fourth
c'est
string,
léger,
la pour
c'est traité avec... C'est surtout...
Non, écoutez, écoutez-moi, je suis femme. Même si l'année de la femme, je dois le parler, non?
Il y a une odeur de
goût
qui se dégage de cette version-là.
C'est pas possible, ça.
Moi, je l'aime sans l'admirer.
Moi, je l'admire sans l'aimer.
Sans l'admirer. Vous avez marqué. Oui. Vous avez tous les droits. Bah.
Merci, merci beaucoup. J'ai oublié de vous prévenir, j'ose espérer d'ailleurs que vous allez me le pardonner, pour les festivités du 75e anniversaire de la tribune des critiques de disques sur France Musique, nous avons décidé d'accueillir les mânes de Claude Prophète, de Covid Aléa, de André Petit-Bourgeois, de Roger Pavani et de Sylvie Adieu. Ils interviendront ad libitum, à condition que cela ne dépasse pas certaines limites, évidemment. On verra. Deuxième exemple d'achèvement de l'inachevé, c'est le feuilleton de la 10e symphonie de Mahler, effectivement inachevé à sa mort en mai 1911. C'est un feuilleton qui, après de multiples épisodes, fera des versions exécutables, ce qu'en anglais on appelle les performing versions, de cette symphonie de Mahler, notamment celle de Derrick Cook, une des œuvres couramment enregistrées, couramment jouées par les grands orchestres et couramment acclamées par le public. En 1924, lorsque le manuscrit est publié, on découvre que, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis 1911, l'œuvre est complète en 5 mouvements, pratiquement finalisée s'agissant du premier mouvement, et peu s'en faut du troisième aussi, et pour le reste esquissée sous la forme d'une particelle. La particelle, c'est la notation abrégée de la partition sur 2, 3 ou 4 portées, et cette particelle est quasiment intégrale, avec très peu de lacunes. Il manque bien sûr quelques voix intérieures, il faut compléter l'orchestration, mais d'ailleurs, le compositeur a donné beaucoup d'indications sur l'instrumentation, donc l'œuvre est achevable. Cette même année 1924, la Philharmonie de Vienne, en octobre, crée les deux mouvements quasiment achevés, l'Adagio initial et le Purgatorio central, qui est mis au point par le jeune et brillantissime compositeur Ernst Krenek. Dans une lettre, Krenek avoue la difficulté qu'il a eue à finir l'inachevé. Il refusera d'ailleurs d'aller au-delà et de terminer les trois autres mouvements. Ce seront des musicologues britanniques et américains qui vont élaborer les versions exécutables qui sont jouées aujourd'hui. 4 ans avant sa mort, Alma Mahler, bouleversée au plus profond d'elle-même et en larmes lors d'une répétition de la version Cook en 1960, elle a alors 81 ans, finit par autoriser l'œuvre ainsi achevée. L'œuvre n'est donc pas morte pour jamais, tant s'en faut, même si Mahler n'était pas arrivé à la finir. Nous allons écouter le troisième mouvement, le Purgatorio, dans la version que je trouve merveilleuse de Rudolf Barschai, version très proche de celle de la création en 1924. Notre troisième exemple d'inachevé-achevé prend son origine en 1924, 7 semaines après la création du Purgatorio que nous venons d'entendre. Le 29 novembre, Puccini meurt à Bruxelles. Il n'est pas arrivé à finir son opéra Turandot. Alors, on se tourne vers Franco Alfano, compositeur estimable, dont la postérité a un peu oublié le grand opéra Résurrection d'après Tolstoï, et même, malgré les efforts de Roberto Alagna, le Cyrano et Bergerac. Et Alfano accepte de compléter les deux dernières scènes pour lesquelles Puccini voulait écrire une musique nouvelle et fantastique. De manière étrangement auto-prémonitoire, Puccini, qui redoutait l'inachèvement de Turandot, avait écrit qu'au soir de la première, l'opéra serait présenté incomplet et quelqu'un s'avancerait sur la scène pour dire « à ce moment, le maestro est mort ». Ce que fit Toscanini à la création en 1926, mais dès la représentation suivante, il utilisa le final composé par Alfano, final qui fit et qui fait toujours l'objet d'une forte contestation sur sa valeur et sa pertinence. D'autres compositeurs s'essayèrent à achever l'œuvre, notamment Luciano Berio, avec un nouveau final composé en 2001 et créé en 2002. Nous allons entendre les deux versions. D'abord, celle d'Alfano, avec dans le rôle de Turandot la princesse Calas, dont Carole Bouquet et Marianne Vauche vous révèlent le journal intime dans un splendide podcast. Puis celle de Berio, dont Thomas Fergracht vous dit les passions et les brins de folie dans le deuxième épisode de son podcast sur la musique contemporaine. Le tout sur France Musique. Si c'est pas de la bonne autopromotion, qu'est-ce que c'est alors? Scène finale de Turandot, donc un happy end absolu devant le palais impérial, dans des lumières roses qui sont celles de l'aurore. Père Auguste, je sais le nom de l'étranger, son nom est Amour, et à ce moment-là, le prince Calaf et la princesse Turandot, que l'on pensait plutôt psychopathe, cruelle et indifférente à l'amour, se jettent dans les bras l'un de l'autre, la foule chante l'amour, la gloire du soleil levant et celle de l'empire du milieu. Finale inachevée, est-il mort? Est-il mort à jamais? Réponse pas si évidente. Les lecteurs de l'opéra maudit, la troisième et excellente aventure de Dick Harrison, de la bande dessinée de Savard, se sont sans doute déjà fait une opinion. Écoutons Puccini et Alfano, puis Puccini et Berio.
Oh!
tout cas, ça vaut pas Furtwängler.
C'est pour cette raison que moi, comme roumain, je le déteste. Mais je le déteste avec admiration, vous comprenez?
Mais
c'est très difficile à mettre.
On est plongé dans les paradoxes, ce n'est pas possible d'en sortir.
C'est une sensation odieuse.
Laissez-moi.
Mais c'est la seule valable.
Laissez-moi.
Vous m'avez pas laissé parler pendant tout. Je trouve ça impossible.
Oh, après tout, on a certains droits, monsieur.
C'est une procédure démocratique.
Oh,
c'est pas possible. J'avais beaucoup à dire.
Mais c'est pas possible.
Ma femme. Non.
Oh,
je vous dis.
Grâce à Dieu que j'ai pas.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bien on va voir, on va prendre le temps de la réflexion. Quatrième exemple d'inachevé achevé, également avec Luciano Berio, c'est Rendering, restauration de fragments d'une symphonie de Franz Schubert. Franz Schubert à nouveau. En 1828, pendant les toutes dernières semaines de sa courte existence, Schubert travaille sur les esquisses d'une nouvelle symphonie, qui devrait être la dixième en ré majeur. Il laisse l'œuvre à un point d'inachèvement qui ne permet pas l'exécution d'aucun de ses mouvements. Ses esquisses ne sont d'ailleurs retrouvées que 150 ans plus tard et publiées en 1978. Frappé par la beauté de ces quelques lignes et fragments, Berio décide non pas de se prendre pour Schubert en achevant la symphonie, comme certains musicologues vont tenter de le faire, soi-disant comme Schubert l'aurait fait lui-même, mais de restaurer ses esquisses et il l'écrit, il s'agit, comme on le fait aujourd'hui avec les fresques de Giotto à Assise, de rallumer, de raviver les couleurs d'époque, sans pour autant cacher les atteintes du temps et les vides inévitables, les lacunes dont souffre l'œuvre. Les fragments existants sont reliés par un tissu orchestral comme un ciment délicat constellé par les notes du Célestat. On entend des réminiscences schubertiennes encore vagues et brouillées dans l'attente du fragment suivant, du moment où surgit avec des couleurs pimpantes de nouveau la musique puissante de cet ultime Schubert. C'est très beau, me semble-t-il. L'œuvre que Schubert n'est pas arrivé à finir n'est pas réanimée artificiellement à la Frankenstein. Elle est vivante, avec un pouvoir émotionnel et une force musicale impressionnante. Il y a là comme une esthétique de l'inachevé.
Thank you.
Avant de rejoindre à Ithaque Pénélope, merveilleuse héroïne du « Je n'arrive pas à finir » et inspiratrice de tant de belles musiques, faisons une courte escale à Brindisium, grand port de l'Apulia romaine, Brindisi ou Brinde de nos jours, au milieu des Pouilles, dans le talon de la botte italienne, face à la côte albanaise. Nous sommes en septembre de l'année 19 avant notre ère. Virgile vient d'arriver à Brinde. Suite à une forte insolation, il est malade. Il est également atteint par la malaria. Il sent la mort s'approcher. Il comprend qu'il ne va pas arriver à finir l'Énéide. Il rédige son testament et il exige la destruction par le feu du manuscrit inachevé de l'Énéide. Il en fait part à l'empereur Auguste, qui est lui aussi à Brinde. Et c'est lui qui a fait rapatrier Virgile. Il veille avec une extraordinaire attention sur ce grand poème épique à la gloire de Rome, d'Énée et d'Auguste. Il s'oppose donc à la destruction et après la mort de Virgile le 21 septembre, il ordonne à son exécuteur testamentaire de publier l'Énéide dans son état d'inachèvement. Plus de 19 siècles après, en 1936 à Vienne, Hermann Bror écrit une nouvelle radiophonique sur les derniers jours de Virgile à Brinde. En 1938, après l'Anschluss, Bror est arrêté, interné au camp de Bad Aussee. Il entreprend alors une deuxième version de l'ouvrage en y intégrant les poèmes qu'il a écrits récemment sur la mort de Virgile. Grâce à la mobilisation de James Joyce et d'Aldous Huxley, il va être rapidement libéré et pourra immigrer aux États-Unis. À plusieurs reprises, il se remet à l'ouvrage et il parvient enfin à l'achever en 1945. En 1955, à Paris, Jean Baraquet, disciple de Messiaen, compositeur dont la vocation lui est venue, dit-il, à l'écoute de la symphonie inachevée de Schubert, il se lance dans la composition d'une œuvre monumentale, La mort de Virgile. En effet, il a été subjugué par la lecture du roman d'Hermann Bror et désormais il va consacrer son temps, son énergie à cette nouvelle œuvre, mais il n'arrivera pas à la finir. C'est une musique fulgurante, très emblématique de l'avant-garde des années 50 et 60. Une musique du fragment, une musique qui est fascinante, comme une mise en abîme de 20 siècles de « Je n'arrive pas à finir ». Et nous allons écouter un extrait de cette partition de Jean Baraquet qui s'appelle « Chant après chant » pour voix, piano et percussion, créée en 1966 sur des extraits de la deuxième partie du roman d'Hermann Bror. C'est l'effroi nocturne du créateur au seuil de la mort, la tentation de brûler l'œuvre inachevée. Nous écoutons la première section de « Chant après chant ». Thank you. je n'arrive pas à finir. Ce peut être aussi parce que je ne le veux pas. C'est la stratégie de la très rusée Pénélope qui n'arrive pas à finir de tisser son voile. Nous y viendrons dans quelques instants. C'est aussi le bonheur communicatif de compositeurs au sommet de leur art qui n'envisagent pas de conclure trop vite l'œuvre, alors qu'il y a tant à faire résonner, tant à écrire, tant à faire entendre. Ce peut être d'ailleurs « Je n'arrive pas à finir » par pure malice. Ainsi de Joseph Haydn, par exemple, dans le final de sa 82e symphonie surnommée « L'ours », une des magnifiques symphonies parisiennes de 1786. Haydn fait semblant de conclure et puis après un instant de silence, il surprend l'auditeur, il le reprend en main pour une seconde fin déchaînée. Nous écoutons la réexposition et la fin, je devrais dire plutôt les fins. À présent, Beethoven est la dernière section du Gloria de la Missa Solemnis. Alors, un peu d'arithmétique, avant la musique bien sûr. En latin, 20 mots, 20 mots pas plus sur les 101 du texte du Gloria. 19,8, disons 20% du texte. La mise en musique de ces 20 mots prend 260 mesures sur les 569 mesures au total. On a fait le calcul, ne vous inquiétez pas, ça fait 45,7% pour 20% du texte. Donc presque la moitié de la musique pour le dernier cinquième du texte. Beethoven n'arrive pas ou ne souhaite pas finir plus tôt que cela, et cela s'entend. À quatre reprises, l'auditeur pense que l'œuvre est terminée. Et non, un nouvel horizon apparaît et nous transporte ailleurs. Petite visite guidée avec quelques repères avant l'écoute intégrale de cette musique absolument stupéfiante qui n'en finit pas de finir. Première section, un allegro maestoso, le chœur énonce l'ensemble du texte en une minute et il conclut deux fois « Amen » avec un somptueux effet de ralentissement et de crescendo. C'est fini. Non, non, ce n'est pas fini. Allegro ma non troppo et ben marcato, fugue avec de belles modulations sur la reprise de « In gloria Dei Patris Amen », double coda bien posé, qui n'est toujours pas conclusive. En effet, troisième épisode, les quatre solistes entrent dans le jeu. Ils se lancent seuls dans une nouvelle fugue sur « In gloria Dei Patris Amen ». Mais le chœur s'y mise discrètement d'abord, en repartant en arrière, si j'ose dire, puisqu'il fait réapparaître le verset « Cum Santo Spirito ». Puis il reprend le dessus avec un mouvement fugué nouveau sur « In gloria Patris Amen ». Amen, amen, toujours pas fini. Poco più allegro, les quatre solistes reprennent la balle au bon avec un nouvel épisode fugué sur Amen. Mais le chœur se lance dessous les solistes dans une nouvelle fugue en repartant un cran en arrière avec le premier verset Quoniam tu solus sanctus. C'est reparti de plus belle, le chœur s'impose, accélération, affirmation, répétition de l'Amen. Silence, c'est la fin ? Non. Un cinquième épisode presto commence avec un nouveau texte, celui du début du Gloria, In excelsis Deo. Modulation variée et brusquement on est surpris. Cette transe glorieuse s'arrête et nous laisse pantois et émerveillés.
Oh!
sur le coup de 3 heures. Aux alentours de 3 heures, c'est l'heure des badineries des bagatelles. Aujourd'hui, une cascade de chefs-d'œuvre en version écoute intégrale, écrit par des artistes qui, ce jour-là au moins, arrivaient à finir sans difficulté et révéler la quintessence de leur génie en moins de temps qu'il ne faudrait pour en parler. À vos oreilles, toute une superbe sonate de Scarlatti en 43 secondes. C'est la Kirkpatrick 431. Après le clavecin, l'orgue, 42 secondes somptueuses écrites en prison pour invoquer l'esprit créateur, c'est Bach qui était en prison. Giorgi Ligeti pour un prestissimo staccatissimo e leggero, 5 instruments avant et 27 secondes très ludiques. Attention, un sketch de 25 secondes de Raymond Devos lui-même. Attention.
Vous avez vu aussi ce matin dans le journal, cet accident évité de justesse. Vous n'avez pas vu ça? Un train qui roulait à vive allure. Il n'a pas vu déboucher un tunnel. Il est rentré dedans. Il est ressorti pas une éraflure.
La troisième bagatelle de l'opus 9, 23 secondes, toute la finesse, l'imagination et l'alacrité pétillante de Webern. Donnegger, la quatrième des 7 pièces brèves pour piano, claire, acidulée, 18 secondes de légèreté joyeuse. À présent, toute une épopée dramatique en musique en moins de 16 secondes. Chapeau François Corbier.
Hey, quand le bateau a coulé, le capitaine a crié. Bloup, 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 bloup.
Un joyau, la dixième bagatelle opus 119 de Beethoven, qui se montre ici plus bref qu'ailleurs. 15 secondes, mais quel chef-d'œuvre! Mazette, que c'est bref, que c'est beau. Quitte ou double, allez, on n'a plus le temps, mais on réécoute quand même, avec clarinette et violoncelle. C'est fini.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Nous n'en avons pas fini tant s'en faut avec notre thème du jour. Je n'arrive pas à finir. Avant de rejoindre enfin Pénélope et tout le cortège des musiciens qui l'ont célébré, Leos Janáček, non pour son œuvre ultime, l'opéra de la Maison des Morts, qu'il n'arrivera pas tout à fait à finir, mais pour une de ses créatures les plus fascinantes qui incarne, dans une beauté musicale inouïe, une autre façon de ne pas arriver à finir. C'est Emilia Marty, célèbre cantatrice, alias Genia Montes, alias Eliane McGregor, alias Elina Makropoulos, l'héroïne de l'affaire Makropoulos, dernier opéra achevé de Janáček, créé en 1926 à Brno. Ce n'est que progressivement que l'auditeur devine et comprend les identités successives de celle qui naquit en 1575 en Crète et qui était la fille de Hieronymus Makropoulos, médecin de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Hieronymus découvre l'élixir de vie que l'empereur le contraint à tester sur sa fille Elina. Elle tombe en pamoison, le père est jeté en prison, Elina, remise au bout de quelques jours, prend la fuite avec la formule de l'élixir. Et elle survit ainsi à travers le monde, changeant régulièrement d'identité tout en conservant ses initiales EM. 300 ans après, l'effet de l'élixir va bientôt cesser. Elina revient à Prague pour retrouver la formule qui lui permettra de vivre encore 300 nouvelles années. Nous sommes à la toute fin de l'opéra, après moult péripéties et rebondissements tragiques ou assez comiques. Janáček, septuagénaire, interroge en musique le sens que la mort peut donner à une vie et le risque pour toute vie de laisser l'indifférence à l'égard de tout ou de tous prendre le dessus et se transformer en un cynisme profond. A fortiori lorsque le sentiment de survie, le sentiment de supériorité ou même d'immortalité prévaut et que la passion, notamment amoureuse, a disparu. Belle actualité, me semble-t-il, en ces temps de transhumanisme. Nous écoutons la scène finale, notamment le merveilleux monologue très lyrique d'Elina, Emilia, Eliane, Eugenia. Elle a récupéré la formule de l'élixir, la mort paraît imminente. Elle décide de renoncer à 300 nouvelles années d'une vie perpétuelle qui, privée de son caractère fugitif, devient froide, cynique, vide, vaine. Elle meurt soudain, submergée de tendresse pour ceux qui l'entourent, après avoir donné la formule de l'élixir à sa fille, qui la jette au feu. Elina Makropoulos est Elisabeth Söderström, magique, et elle disparaît dans le flux enivrant de la Philharmonie de Vienne, dirigée par Sir Charles Mackeras.
Mr.
la correspondance de 15h21. Le chant du cygne est-il lugubre ? Prenons la correspondance de 15h21, elle va nous conduire aujourd'hui vers les fins dernières, après un détour zoologique. Le Phédon de Platon contient la scène édifiante et émouvante de la mort de Socrate, mais aussi un autre extrait idéal pour une épreuve de l'option grecque au baccalauréat, le chant du cygne. C'est ici que naquit une légende. Les cygnes, quand ils sentent qu'ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu'ils n'ont jamais fait, dans la joie qu'ils ont d'aller trouver Apollon, le dieu qu'ils servent. Légende d'apparence admirable dont la véracité fut contestée par de nombreux auteurs, à commencer par Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle. On dit qu'au moment de mourir, les cygnes font entendre un chant admirable. C'est faux, pour ce que j'en sais, en tout cas pour ce que j'en ai expérimenté. En effet. En effet, et oui, mais le mal était fait. Prenez Orlando Gibbons, un des plus grands compositeurs du siècle d'or anglais. En 1612, il publie Le Cygne d'argent, un de ses plus admirables madrigaux à cinq voix. Il est l'auteur du texte et de la musique. Et bien qu'il ait forcément entendu le vrai chant du cygne, il écrit « Le cygne d'argent qui, vivant, ne chantait aucune note. Quand la mort s'approcha et libéra sa gorge silencieuse, penchant sa poitrine sur la rive couverte de roseaux, chanta ainsi pour la première et la dernière fois et ne chanta plus. Adieu toutes les joies. Ô mort, ferme mes yeux. Vive plus d'oie que de cygne, plus de fou que de sage. » Trop beau. Quelques décennies plus tard, en 1670, Schütz, qui vient d'avoir 85 ans, entreprend de composer en vue de sa publication un nouveau livre de musique chorale qui réunira deux psaumes, le psaume 119 et le psaume 100, suivi du Magnificat. Il achève l'œuvre l'année suivante et évoque lui-même l'idée qu'elle soit intitulée « Le chant du cygne », ce qui sera effectivement le cas à sa publication juste après sa mort en 1672. Absolument rien de lugubre, au contraire, comme nous allons l'entendre dans ce dernier verset du Magnificat en allemand, clôture de toute l'œuvre de Schütz, comme il était au commencement et maintenant, pour toujours et d'éternité en éternité. Amen.
Ewigkeit, 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 Ewigkeit,
L'autre grand chant du cygne de la musique occidentale n'a pas été intitulé « Chant du cygne » par le compositeur lui-même. C'est le « Schwanengesang » de Schubert, recueil de 14 lieder, pour l'essentiel ceux qu'il a composés en parallèle de l'écriture des fragments de la 10e symphonie à l'automne 1828, lorsque très affaibli par la syphilis, il va succomber à la fièvre typhoïde à l'âge de 31 ans. La tonalité de ces lieder que les circonstances rassemblent, et non pas un plan ou un projet prédéfini, est extrêmement diverse, très variée. Et dans Abschied, l'adieu, le ton de ce congé donné au monde est même entraînant, joyeux, léger. Adieu, vous, innombrables étoiles, je ne peux m'attarder ici, je dois aller de l'avant. Ce qui m'aide, c'est que vous me suiviez si fidèlement. Adieu, mais avec l'envie que rien ne s'achève, et si vous écoutez très attentivement, vous entendrez que sous les applaudissements, le baryton murmure encore la mélodie. Il n'arrive pas à finir de chanter cet adieu. C'est Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné par Sviatoslav Richter à Salzbourg en 1977.
Adieu, du montre tu fröhliche Stadt, adieu. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Adieu, du montre tu fröhliche Stadt, adieu. Am silbernen Strome entlang, bei schallender Töne mein Abschiedsgesang. Wie habt ihr ein trauriges Lied gehört? So wird euch noch keines beim Scheiden beschert. So wird euch noch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten zu grün. Ade. Ade, ihr freundliche Mägdlein da. Sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um. Adieu, ihr freundlichen Mägdlein dort, adieu. Adieu, ihr Sterne verhüllt euch grau, adieu. Verschimmertes Licht ersetzt ihre zähnigen Sterne ins Licht. Darf ich hin, wenn ich weilen muss, siehe vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hin, wenn ich weilen muss, siehe vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade, der Sterne verhüllt euch grau. Ade.
Décidément, Platon avait raison, rien de lugubre dans le chant du cygne.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Ne pas arriver à finir peut être un motif de joie. Ainsi en est-il, je suppose, de Leif Segerström, grand compositeur et chef d'orchestre finlandais, qui, même s'il va devoir bientôt envisager de ne plus lire les aventures de Tintin, continue à écrire avec une surabondance prolifique des symphonies. Il avait atteint le cap des 345 symphonies en avril dernier, et peut-être a-t-il dépassé le cap des 350 juste le temps de cette émission. Quel talent, quelle santé ! Ne pas arriver à finir et finir ainsi, C'est ce qu'Antoine Compagnon, dans son dernier cours au Collège de France, a appelé le sénile sublime. Chez certains créateurs, la dernière œuvre très tardive accomplit un dépassement, un triomphe de la mort. En musique, outre Chutes, on pense irrésistiblement à Monteverdi, qui livre au monde à l'âge de 74 et 75 ans trois chefs-d'œuvre absolus, Le retour d'Ulysse dans sa patrie, Le couronnement de Poppée et La Selva Morale et Spirituale. À Verdi aussi, qui dans sa 80e année crée Falstaff, à Boulez, qui à 77 ans donne son ultime chef-d'œuvre Dérive 2, et puis au juvénile Elliot Carter, qui achève ses controverses et conversations pour piano et orchestre au cours de sa 103e année au début du 21e siècle. Je n'arrive pas à finir car le bonheur et le plaisir sont dans l'infini et dans la continuité. C'est ce que nous dit aussi la musique de Richard Strauss, notamment lorsque la musique se charge elle-même de nous faire sentir, ressentir, expérimenter la métamorphose de Daphné en un glorieux et resplendissant laurier. Au pauvre librettiste de cet opéra, Gregor, dépêché parce que Stefan Zweig a subi l'interdiction du régime nazi, Zweig lui-même suggère « Au moment où le miracle s'accomplit et que Daphné se métamorphose en arbre, représente par des voix isolées ce miracle dans son devenir progressif afin que le spectateur le vive en même temps, que l'on puisse en quelque sorte voir de ses yeux l'arbre qui grandit. » Et Strauss, plus lapidaire, écrit au même Grégor « Supprimez tout ce qui est inutile, gardez seulement l'arbre qui chante ». Sur un mouvement perpétuel, la voix et l'orchestre entrelacés déploient de somptueuses vocalises. Nul ne souhaite qu'elles s'interrompent et que les sortilèges s'achèvent. On souhaiterait que cela ne finisse pas. quittons Daphné et tournons-nous enfin vers Pénélope. Nous n'avons plus le temps. On va pas finir comme ça. Bon. Eh bien, nous n'en finirons donc pas aujourd'hui avec cette belle thématique. Je n'arrive pas à finir. La semaine prochaine, deuxième dimanche du mois, toujours consacré aux stars. En ce mois d'octobre, ce sera Alma, muse, fiancée du vent, veuve des quatre arts. Quatre ou trois, nous verrons. En attendant, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée sur les pages Mazette Quelle Musique, Sur le coup de 3h et La Correspondance de 15h21 du site de France Musique. Avec moi aujourd'hui, et ce n'est pas fini, Laurent Lefrançois, Nelly Portal et Philippe Mercher. Merci à Peter Ustinov pour ses inénarrables parodies de la Tribune des critiques de disques. Excellente semaine sur France Musique, mais d'abord, et dans moins d'une minute, Félicien Bru, ultramontain aujourd'hui, pour Brut d'accordéon.
À réécouter sur francemusique.fr.